Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzati.
Ce journal s'ouvre par l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville de Goma, où un braquage coûte la vie à 4 personnes et fait plusieurs blessés en plein centre-ville ce mercredi à la place dite Entre-Président. Ce qui porte le nombre à 8 personnes abattues en l'espace de 2 jours dans ce chef-lieu de la province du Nord Kivu. La santé est au menu de cette édition avec des milliers d'enfants nouveau-nés exposés à la tuberculose dans la province de l'Ituri. En effet, depuis près d'un mois, toutes les zones de santé de la province n'ont plus de vaccins contre cette maladie. Les parents s'inquiètent et plaident pour une intervention urgente. Et puis, l'invité de la rédaction ce soir est le directeur provincial de la Société africaine de construction et d'asphaltage au Congo, Safrikas Maniema. Alain Kabongo nous parle de l'exécution du programme de développement des 145 territoires par cette société. Tenez, depuis le lancement des travaux, aucun ouvrage n'a été inauguré une année après. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de ce journal. Merci de rester avec nous. Bonsoir à tous. Un braquage coûte la vie à 4 personnes et fait plusieurs blessés en plein cœur de la ville de Goma. C'était hier mercredi à la place dite Entre-Président sur la route Sake. L'insécurité qui prend de l'ampleur à Goma fait réagir en même temps qu'elle inquiète la population. En 2 jours seulement, 8 personnes ont été abattues. Bernardin Nyangi revient sur les circonstances de l'attaque d'hier.
L'incident de ce mercredi est survenu autour de 17h45. Une voiture avec à son bord le fils d'un commerçant du milieu. Leur caissière, un policier, a été braqué par un groupe d'inconnus lourdement armés. Les 3 personnes à bord du véhicule ont été tuées de plusieurs balles et l'argent qu'elles transportaient aurait été pillé selon les témoins. Les mêmes hommes ont par la suite ouvert le feu sur plusieurs autres personnes coincées dans l'embouteillage dans ce croisement qui connaissait à cette heure-là un trafic intense. Une autre femme sera tuée sur les champs et au moins 8 autres personnes blessées. Un député honoraire de la ville de Goma appelle à une intervention du gouvernement provincial, Jean-Paul Mboulombo.
Qu'il s'agisse de la nuit, de la journée, les tueries se font dans la ville de Goma. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps que l'autorité compétente prenne à bras le corps la situation de l'insécurité. Essayez de repenser les stratégies mises en place pour sécuriser la ville de Goma.
L'autorité provinciale n'a encore fait aucune communication sur cet incident. Le maire de la ville, quant à lui, a présenté ce jeudi matin à la presse des présumés criminels, parmi lesquels 3 qui seraient liés à cet incident de l'entre-président. Rappelons que ce meurtre s'ajoute à au moins 4 autres personnes tuées par des hommes armés mardi soir au quartier Majengo et vers le centre-ville. Goma, Bernard Dengangui, Radio Okapi.
Sachez par ailleurs qu'un calme précaire s'observe ce jeudi sur plusieurs lignes de front dans les territoires des Massis et Rutshuru. C'est après des combats dans la matinée d'hier mercredi dans les alentours du village Chacha, dans le groupement des Mufunishanga, territoire des Massisi. Des affrontements ont opposé dans la zone des groupes armés locaux aux rebelles du M23, précisément autour des collines de Ndumba et Muremure. D'autres combats ont opposé les mêmes forces autour du village Bihambwe, dans les territoires des Massisi. Nos sources ne mentionnent aucune avancée des 2 forces belligérantes. Chacha reste toujours occupé par les rebelles du M23 et les groupes armés locaux occupent leur position. Nord Kivu toujours, des milliers de déplacés qui ont fui l'occupation par les rebelles du M23 de certaines localités du territoire de Rutshuru expriment plusieurs besoins dans le sud du territoire de Lubero où ils ont trouvé refuge. C'est le constat des plus de 20 organisations humanitaires qui viennent d'effectuer une mission dans la zone. Conduite par les bureaux de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, la mission avait pour objectif d'évaluer la situation des déplacés en vue de leur apporter une réponse d'urgence. À Beni, une correspondance de Martial Papimukeba.
Dans les rapports publiés le 2 avril dernier, ces ONG affirment que pour le seul mois de mars, près de 168 000 personnes, l'équivalent de 33 576 ménages déplacés en provenance des localités de Kibirizi, Katwe, Nyanzale, sont arrivés dans plusieurs entités du Sud Lubero. Ils sont concentrés dans la commune rurale de Kanyabayonga ainsi que dans les localités de Kasehe, Miobwe, Luofu, Miriki et Mboivinwa. À ces nouveaux déplacés s'ajoutent près de 100 000 autres personnes déplacées déjà présentes dans la zone depuis le dernier trimestre de 2023, précisent les rapports. Leurs besoins sont immenses car ces personnes manquent de tout. abri, vivre, eau, hygiène et médicaments. Les humanitaires disent par ailleurs qu'actuellement, plusieurs enfants en bas âge, des femmes enceintes et allaitantes sont en situation nutritionnelle d'urgence dans la zone de santé des Kaina. Ils souffrent pour certains des malnutrition sévères et aiguës et pour d'autres des malnutrition globales. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et au sud Kivu voisin, de plus en plus des embarcations sur le lac Kivu entre Minova et Goma font objet des attaques des rebelles du M23 RDF. Le mardi, un bateau qui quittait Minova pour Goma a été la cible des bombes des rebelles qui sont positionnés dans des collines voisines. Cette attaque a provoqué l'avortement d'une femme enceinte qui était à bord du bateau. Monsieur Alfred Gentil Kimutu, capitaine du bateau visé par ces rebelles, évoque sa crainte sur les attaques des embarcations du lac Kivu. Ses propos sont recueillis par notre confrère d'une radio de Minova qui est partenaire à Radio Okapi.
Nous avons eu peur de notre bateau là touché récemment par des bombardements de M23 ici dans notre site de Minova. Alors nous avons jugé bon de le faire évacuer ici pour le faire garder dans d'autres côtés parce que nous avons eu peur vraiment des bombardements de M23 puisqu'on ne puisse pas faire noyer nos trangers. Mais aussi, bon, nous allons stopper toujours la navigation parce que nous faisons nourrir plus il y a 2 millions d'habitants se trouvant dans le sud et dans le nord. Il serait mieux d'arrêter ce mouvement parce que si les terroristes continuent à tirer sur nos bateaux, vraiment, nous avons eu peur de continuer toujours la navigation. Nous n'avons plus d'autres moyens à faire déplacer nos produits champêtres parce que la route nationale numéro 2 est fermée. Et même là qu'on passait ici dans notre lac risque d'être fermé suite au bombardement toujours.
À Kalemie, pendant ce temps, le mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou appelle les services de l'État à renforcer le contrôle dans les secteurs de la navigation. C'est confié ce jeudi à Radio Okapi. Le président de cette structure dans les Tanganyika indique que ce contrôle va renforcer la sécurité des passagers en cette période où le lac Tanganyika est agité par le vent. Nathan Mugisho, président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou dans les Tanganyika, s'exprime au micro de Paulin Munanga.
Nous interpellons le service de sécurité et aussi le service maritime plus particulièrement parce que c'est celui-là qui est censé protéger les passagers. Nous demandons que dès lors qu'il y a un bateau qui veut quitter le port de Kalemie à destination d'Uvira, à destination de Moba ou à destination de la Zambie ou même à destination de la Tanzanie, il faut que le service puisse se rassurer du tonnage que le bateau a pris. Il faut que le service puisse limiter le nombre des passagers. Et il faut que le service puisse se rassurer que tous les passagers détiennent ou ont reçu de la part du bateau ou de la part des gestionnaires, le bouée de sauvetage. Parce que pendant ces temps, on est en train d'assister à des vagues qui causent beaucoup de dégâts sous le lac Tanganyika. Les gens ne doivent pas accepter d'entrer dans les bateaux parce qu'il faut seulement entrer. Ils doivent aussi se rassurer s'ils ont des objets comme bouée de sauvetage. En cas de danger, s'ils peuvent être sauvés en pleine navigation.
On enchaîne avec la Tchopo, où le directeur et chef des sites adjoints de la partie nord du parc national de la Lomami demande aux autorités à tous les niveaux de s'investir afin de dégager les responsabilités dans les doubles meurtres des deux jeunes hommes la semaine dernière dans ces parcs. Ceci, déclare Dieudonné Mungu, pourrait contribuer à instaurer un climat de paix nécessaire pour le travail. Car, souligne-t-il, depuis la découverte de ces deux corps, le climat est tendu dans ces secteurs. En effet, les rumeurs circulant dans ces milieux attribueraient ces doubles meurtres aux éco-gardes de l'ICSN dans cette partie du territoire d'Opala. Le point de la situation avec Jacques Mukonkole.
Après la découverte des décors déjà en décomposition dans la forêt et leur inhumation par la Croix-Rouge locale, la population s'est livrée à des actes de vandalisme sur le patrimoine de l'ICCN. Jean-Baptiste Ekili, président de la société civile d'Opala.
La population était partie incinérer les bâtiments de l'ICCN qui se trouvaient à Lieke-le-Soleil. En plus, la communauté s'est déplacée au groupement Yaoundé pour incinérer un autre camp de l'UICN.
Actuellement, les agents de l'UICN se trouvent dans l'impossibilité de travailler à cause de l'insécurité. L'administrateur du territoire d'Opala, Médar Ilongue Konga, dit avoir saisi les autorités provinciales afin d'assurer la sécurité des agents de l'UICN. En attendant, le député provincial élu d'Opala, Dr Aimé Eyane, appelle la population au calme.
Il y a les services compétents qui vont descendre sur le terrain pour faire des investigations que nous en appelons vraiment au calme pour que la paix et l'harmonie puissent régner entre la population et les travailleurs de l'ICCN.
Signalons que le comité territorial de sécurité d'Opala a déjà diligenté une enquête pour tenter de déterminer les circonstances et les auteurs de ce drame. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Santé à présent. En Ituri, des milliers d'enfants nouveau-nés sont exposés à la tuberculose si rien n'est fait dans un plus bref délai. En effet, toutes les zones de santé de la province n'ont plus de vaccins contre cette maladie et la situation dure depuis près d'un mois. Les parents se disent inquiets et plaident pour une intervention urgente. Le responsable du programme élargi de vaccination, Pev Abounia, rassure. Selon lui, les démarches sont en cours pour décanter la situation qui, précise-t-il, affecte tout le territoire national. Radio Kapi Bounia, Marcel Kizabiamungo.
La rupture du vaccin BCG administré aux bébés dès la naissance pour se protéger contre des infections tuberculeuses graves telles que la méningite s'observe il y a environ un mois dans plusieurs structures sanitaires de Bounia et les entités environnantes. Des parents qui se présentent avec leurs enfants dans les hôpitaux et centres de santé sont renvoyés à la maison faute des vaccins. Ils redoutent des conséquences graves pour la santé de leurs nourrissons. L'un d'eux retrouvé dans une structure médicale au centre-ville de Bounia exprime son inquiétude.
Mon épouse est en train de se rendre à l'hôpital. À maintes reprises, la réponse est toujours qu'il n'y a pas de stock. Et aujourd'hui, là, on est inquiet.
Au bureau du programme élargi des vaccinations PEV Bounia, les problèmes sont bien connus. Les chefs d'antenne rassurent que ces vaccins seront acheminés dans une semaine à Bounia, provenance de Kinshasa, pour ne pas exposer à la longue ses enfants à la tuberculose. Docteur Alain Aveba.
Si ça n'arrive pas la semaine ici, ça serait inquiétant parce que, donc, au-delà des 30 jours, on ne saura pas récupérer les enfants, c'est-à-dire ils seront exposés à la tuberculose à la longue.
Certains parents ont résolu d'amener leurs enfants en Ouganda pour recevoir ces vaccins BCG si cette rupture des stocks se prolonge au-delà d'une semaine. Bounia, Martial Kizepiamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité, notez aussi que l'entreprise Transco a 10 nouveaux bus Mercedes neufs. Ils sortaient tout droit des ateliers de montage de l'entreprise Suprême Automobile installée dans la capitale congolaise. C'est le ministre des Transports qui a procédé à cette remise ce jeudi ici à Kinshasa. C'est le deuxième lot, soit 31 bus sur les 230 attendus selon les DG des Transco dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement central et cette entreprise de montage. Le ministre Marc Ekila appelle les autorités de la société Transco à en prendre soin. On l'écoute dans cet extrait choisi par Marie-France Munguindou.
Au mois de mai, quand nous sommes allés inaugurer cet atelier, je veux dire, cette usine, avec le chef de l'État, nous avons eu les commentaires de toutes les sortes. Personne n'avait cru qu'on pouvait monter des bus ici. Et voilà, nous avons reçu un premier lot, malgré les difficultés que nous rencontrons, mais nous surmontons ça ensemble. Maintenant, nous avons un deuxième lot. J'ai roulé à bord, j'ai pu garantir la population congolaise que ces bus, ce sont de très, très, très bons. Ce sont sur le plan technique, mécanique, il y a même beaucoup d'améliorations. J'exhorte notre population à prendre ces bus. Je voudrais rappeler encore, comme nous avons convenu, que nous puissions, au regard du nombre de difficultés que nous rencontrons, de recevoir 10 à 12 bus mensuellement. Cela peut nous permettre de transporter dans de très bonnes conditions non seulement les Kino, mais les autres populations qui sont à l'intérieur du pays. Parce que le ministre que je suis, j'ai un rêve, c'est que les bus puissent quitter les chefs-lieux de province pour aller, pourquoi pas, dans les territoires. À Transco, je vais vous demander de garder le bus en bon père de famille.
Parlons de la grogne des assistants parlementaires de la dernière législature au sujet de leurs indemnités de sortie. Le cabinet du président Christophe Mboso fait une mise au point. Ces personnels politiques réclament du bureau Mboso le paiement de plusieurs avantages, notamment les arriérés des salaires et des indemnités de sortie. En réaction, le cabinet de Christophe Mboso éclaire que le règlement intérieur de la législature passée reconnaissait les assistants parlementaires comme personnels politiques attachés aux députés nationaux et leur salaire dépendait de la ligne budgétaire. Les détails dans ce condensé de Michel Kifindangoy rendu par Merfifika.
Outre la revendication des arriérés des salaires et des indemnités de sortie, les assistants parlementaires accusent le bureau Mbosso de la dernière législature de n'avoir pas signé la décision des nominations devant couvrir leur exercice conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Faux, rétorque le bureau Mbosso, affirmant que, par bonne foi et générosité, le président du bureau sortant, Christophe Mbosso Kodiampouanga, et l'actuel président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a accepté de prendre en charge les assistants parlementaires. Mais la ligne budgétaire ne prévoit pas d'indemnité de sortie pour les assistants parlementaires, ajoute son cabinet. À ce stade, poursuit le cabinet du président de l'Assemblée nationale, il importe de relever que le président Mbosso Nkodia a payé les personnels des cabinets Kamere, Bouchab, Minaku ainsi que Mabunda. Pourquoi refuserait-il de payer les assistants parlementaires si le budget 2023 avait pris en compte cette catégorie de personnes politiques, s'interroge le cabinet.
Actualité internationale.
À Lomé, l'ensemble des partis d'opposition ont tenu conférence de presse ce jeudi 11 avril au siège de l'Alliance nationale pour le changement après l'annonce des élections législatives le 29 avril, car l'opposition est vent debout contre la nouvelle constitution togolaise contre laquelle elle comptait manifester les samedis 12 et dimanche 13 avril. Mais les autorités ont interdit les manifestations. L'opposition semble prête à participer aux législatives malgré tout.
L'invité.
Notre invité est Alain Kabongo, directeur provincial de la Société africaine de construction et d'asphaltage au Congo Safrikas Maniema. Il nous parle de l'exécution du programme de développement des 145 territoires par cette société avec le financement du PNUD. Depuis le lancement de ses travaux le 1er avril 2023, aucun ouvrage n'a été inauguré jusqu'à maintenant. Alain Kabongo nous donne les causes au micro de Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur Alain Kabongo, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
Safrikas, dans le cadre du projet de PEDEL 145 territoires, vous avez promis de remettre à l'État congolais les ouvrages au mois de décembre. Nous sommes au mois d'avril. Qu'est-ce qui justifie encore ces retards?
Exactement, madame. Nous avons promis de pouvoir remettre les ouvrages à notre partenaire qui est le PNUD au mois de décembre. Malheureusement, nous avons connu encore un retard qui est dû aux difficultés d'ordre logistique et également aux difficultés d'approvisionnement en matériaux qui ne sont pas ici chez nous dans notre province, notamment les tôles, les triplex et autres, des matériaux qu'on utilise pour les finitions qui, même actuellement, nous sommes obligés de faire recours ou de faire nos approvisionnements au niveau de l'Ouganda. Alors, avec tout ce qu'il y a comme situation au niveau de la partie Est, cela a également impacté négativement les engagements que nous avions pris par rapport à la livraison des ouvrages.
Vous parlez seulement du retard dans la livraison de matériel, mais dans certains territoires, on nous signale que là, vous n'êtes même pas au niveau des fondations.
Exactement, nous avons quelques petits soucis sur certains de nos sites qui représentent à peine 10% sur certains sites où nous avons connu des difficultés suite à certains engagements non respectés avec certains de nos prestataires. Et je crois que toutes les dispositions sont prises avec nos services juridiques pour que les travaux soient relancés sur ces sites le plus rapidement possible et permettent à ce que les bénéficiaires puissent normalement bénéficier de leurs ouvrages d'ici dans les délais que nous nous sommes fixés avec notre partenaire, le PNUD.
Vous parlez de prestataires, mais il y a certains de ces prestataires qui réclament, qui parlent de l'impayement. De votre côté, vous n'en aurez pas à vos engagements.
Je crois effectivement que nous avons appris tous qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui veulent ternir l'image de Safrikas. Je crois qu'à ces jours, Safrikas n'a aucun engagement non respecté vis-à-vis de nos partenaires, nos prestataires. C'est ainsi que nos services juridiques sont en train de faire des enquêtes là-dessus pour pouvoir établir les responsabilités de tout un chacun. Et je crois qu'après leur enquête, toutes les dispositions sont prises pour que les choses soient relancées le plus rapidement possible. Sur certains sites où il y a ce genre de situation.
Le délai est largement dépassé. Enfin, vous comptez remettre ces ouvrages à quand?
Le délai est largement dépassé, bien sûr. Je crois que personne ne peut ignorer les difficultés que nous rencontrons ici dans la province du Maniema, notamment l'état de nos routes qui ne permet pas rapidement de ravitailler les sites. Et il y a également la difficulté d'approvisionnement des matériaux manufacturés, ciment, tôle et autres, qui viennent des autres provinces, voire même des autres pays voisins, et ce qui permet pas que les rythmes soient continus sur nos sites. C'est ainsi que vous verrez sur certains sites, notamment il y a des interruptions de travaux de temps en temps qui sont dues aux approvisionnements des matériaux qui nous viennent d'ailleurs.
Depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y a déjà un ouvrage qu'on a déjà inauguré dans la province du Maniema?
Nous avons déjà des ouvrages depuis l'année passée qui sont quasiment finis à notre niveau, mais la liste, c'est plus d'une dizaine d'ouvrages qui sont déjà finis, et la liste a déjà été soumise à notre partenaire PNUD qui est en train d'organiser avec le gouvernement pour voir comment ces ouvrages peuvent être remis aux bénéficiaires le plus rapidement possible. Je crois qu'il y aura un chronogramme qui sera établi et présenté pour la remise des ouvrages qui sont déjà finis.
Et comme nous voulons entamer la saison des pluies, est-ce que ça ne sera pas encore à l'occasion des Africas pour trouver des raisons?
Je ne crois pas que ça sera encore des raisons qu'on va trouver, étant donné que nous avons, avec toute l'expérience que nous avons déjà acquise au niveau de la province, toutes les dispositions sont prises de telle manière que pendant toute la période de la saison des pluies, que les travaux continuent normalement sans interruption.
Monsieur Alain Kabongo, merci.
Merci, Madame Florence.
Notre invité, le directeur provincial de la Société africaine de construction et d'asphaltage au Congo, Safricas Maniema, était interrogé par Florence Kizalonga depuis la ville de Kindu. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Kapi, par ici nous mettons fin à ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision d'Alain Rung. Dieudonné Nyangasawa Nyangasa a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de l'antenne soir avec Jeff Opela.